Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Comment renouveler sa pratique de la photo de paysage? Alors, c'est vrai que c'est un des genres les plus pratiqués, surtout pendant les vacances, que ce soit avec son smartphone, son compact, son réflexe, etc. Donc, on va voir comment définir ce style du paysage et parler un peu des contraintes que ce style impose. Alors, on va voir dans ce quart d'heure photo donc la définition du genre photo de paysage. On va faire un petit point sur les focales généralement employées. On va voir deux difficultés. Donc difficulté déjà de la du point de vue qu'on adopte. Ensuite la difficulté de la mise au point avec un petit mot sur la notion d'hyperfocale. Et ensuite, on verra deux pistes créatives qui vont vous permettre, donc, parce que ben, c'est l'objet de ce podcast et c'est surtout le titre que j'ai choisi, donc des deux pistes pour renouveler la pratique de la photo de paysage. Alors, tout d'abord, alors, définition du genre photo de paysage. Ben, je dirais que c'est très très vague. Alors, ça sous-entend généralement pour les gens, ça évoque un terme, c'est le terme de beau, de joli. Un bord de mer, ça peut être une vallée, ça peut être des montagnes, etc. Souvent, photo de paysage s'entend quand il n'y a pas ou très très peu de construction humaine. Donc voilà, alors il n'y a pas de terme officiel hein, de photo de paysage, il n'y a pas un copyright ou je sais pas quoi qui donne une vulgate à laquelle on serait obligé de s'abonner pour avoir une bonne photo de paysage. Mais voilà, ça sous-entend souvent une photo qui montre un état où l'homme n'est pas beaucoup intervenu, donc typiquement une belle vallée, des montagnes et la mer, hein, ces choses-là. Les focales employées. Alors, les focales, souvent, la photo de paysage est traitée en grand angle, ce qui a un sens. Le grand angle permet évidemment de couvrir plus, d'avoir plus de zones prises dans la photo. Mais ce n'est pas un dogme. Certaines excellentes photos de paysage sont prises au téléobjectif. Donc à vous de voir. Le grand angle a évidemment beaucoup d'avantages et permet de faire ce que ne peut pas faire un téléobjectif et vice-versa. Voilà. Donc on va voir maintenant deux difficultés. Donc la difficulté tout d'abord du point de vue. Alors souvent, enfin souvent, parfois c'est au cours de randonnée ou au cours de voyage qu'on est amené à faire des photos de paysage. Et on n'a pas toujours le choix du point de vue. Alors, évidemment, on peut se déplacer. Souvent, on a le coup de la table panoramique. Donc, vous savez, c'est ces tables circulaires où sont indiquées telle ou telle montagne et qui permet de s'orienter. Alors, que ce soit avec une table panoramique ou alors plus librement quand on serpente sur un chemin. Mais on n'a pas toujours l'occasion de choisir vraiment son point de vue. Alors, on peut se décaler un peu à gauche, un peu à droite. Si on n'est pas flemmard et qu'on voit un petit pic à quelques centaines de mètres, on peut se dire, bon, on va perdre 1 heure ou 2 heures pour aller en haut de ce pic où on aura une meilleure vue, mais on est quand même limité par le point de vue. Et, corollaire, ce point de vue limite aussi l'apport de lumière. Parce que on peut gérer on peut gérer la lumière en se disant qu'on sera à tel bon endroit, à tel moment, avec une bonne lumière. Typiquement, 1 heure après le lever du soleil ou 1 heure avant le coucher du soleil, les fameuses heures dorées. Mais on n'a pas toujours le choix, c'est pas toujours à ce moment-là qu'on fait la randonnée. Parfois, bah, on suit un groupe, parfois notre famille. Et peut-être que tout le monde n'a pas envie de se lever à 5 heures du matin pour être au bon endroit à 7 heures du matin. Donc, on est tributaire d'un groupe. Donc, c'est tout ça des difficultés qui se mettent un peu sur notre passage et auxquelles on n'a pas grand-chose à faire. Alors, ce qu'on peut faire quand même, c'est que existent des applications donnant l'endroit précis où le soleil va se lever. Donc, déjà, on sait qu'on a une orientation. Donc, bah, l'idée peut être de dire à sa famille ou ses amis, bah, tel jour, Je vais partir seul ou à la limite qui même me suivent pour une sortie photo, mais voilà, là je vais faire cette matinée ou cette fin de journée, je vais faire de la photo, et ainsi vous pourrez repérer pour vous-même l'endroit où vous voulez aller, et grâce à une application repérer précisément comment sera le soleil, parce que c'est pas tout de repérer un endroit, mais encore faut-il qu'il soit pas complètement explosé par la lumière, ou au contraire, contrairement à l'ombre, avec derrière un soleil un ciel très éclatant, comme c'est parfois le cas en montagne, ce qui crée ce qu'on appelle une grande plage dynamique, donc avec des montagnes, par exemple, qui peuvent être à contre-jour, c'est-à-dire les montagnes seront très sombres, et derrière ce sera très clair. Ça, l'œil humain arrive à faire ces différences, mais l'œil humain est très bien fait. Mais en revanche, un appareil photo, vous serez déçu. Soit vous serez obligé de faire une exposition correcte sur vos montagnes, mais dans ce cas-là, vous aurez un ciel complètement brûlé. Ou vous voudrez avoir un ciel à peu près correct, mais dans ce cas-là, vous aurez ce qu'on appelle des ombres bouchées sur votre montagne. Donc, difficulté du point de vue. Une deuxième difficulté, c'est celle de la mise au point. Alors, souvent, c'est vrai qu'en paysage, un réflexe est de choisir de faire la mise au point au plus loin, entre guillemets, à l'infini, et de mettre une ouverture, comment dire, une ouverture de diaphragme. Assez faible. Donc ça a un sens, hein, une ouverture de diaphragme faible, et donc avoir une grande profondeur de champ. Alors c'est presque vrai, mais il y a quand même la notion d'hyperfocale. Alors hyperfocale, c'est un mot barbare que je vais vous détailler maintenant. L'hyperfocale se définit par la distance minimum à laquelle il est possible de faire la mise au point tout en gardant les objets situés à l'infini, donc tout au fond, avec une netteté acceptable. La mise au point à cette distance permet d'obtenir la plus grande plage de netteté acceptable qui s'étend alors de la moitié de cette distance à l'infini. Donc ça, c'est la définition que vous trouverez tout simplement sur Wikipédia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette difficulté de mise au point est que parfois, on essaie un peu d'égayer notre paysage, donc on trouve un point de vue pas trop mal avec un avant-plan. Pour éviter d'avoir simplement nos montagnes au fond qui se baladent seules, on veut avoir un petit avant-plan. Sauf que notre avant-plan, on se rend compte qu'il n'est pas forcément net. Donc on essaie de faire la mise au point sur cet avant-plan, sur ce premier plan, mais on a l'arrière qui est flou. Donc mise au point, il est dit donc dans la définition qui est assez juste, hein, qu'il faut garder une netteté acceptable. Acceptable parce que la netteté n'a pas besoin d'être parfaite sur l'arrière-plan, sur ce qui est tout au fond. Alors, il y a des tables très compliquées d'hyperfocale et certains les calculent même. En général, ce qui marche pas trop mal et par temps dégagé, c'est de faire la mise au point au tiers bas de l'image et d'ouvrir petit. Donc, de laisser une grande profondeur de champ, sachant que beaucoup d'objectifs, en fait, sont, on va dire, très performants, ont un piqué idéal entre une ouverture comprise grosso modo entre F8 et F16. Aller au-delà F22, donc encore fermé, vous aurez beaucoup d'aberrations chromatiques, et ouvrir encore plus pour du paysage, là c'est pas très bon. Donc l'hyperfocale, retenez le concept simple qui est que l'idéal n'est pas de faire la mise au point tout au bout de votre paysage. Aux éléments les plus lointains. L'idéal est de faire la mise au point dans le tiers bas de l'image et d'ouvrir peu. Donc typiquement, s'il fait très beau, vous pouvez bien fermer votre diaphragme, par exemple F11 ou F16, faire la mise au point au premier tiers de l'image, et ainsi vous aurez un premier tiers qui sera net, vu que la mise au point est faite dessus, et la netteté sera faite garantie jusqu'à l'infini. Voilà comment faire pour régler ce problème de mise au point. C'est très général, hein, on est dans le quart d'heure photo, donc c'est un quart d'heure sur la photo, donc je pourrais en parler des heures et faire un tutoriel même, ça viendra peut-être d'ailleurs dessus, mais voilà, hyper focal, vous embêtez pas, enfin, vous pouvez vous embêter, c'est quelque chose de passionnant à voir d'ailleurs physiquement, mais ne retenez peut-être pas toutes les tables détaillées que vous pouvez vous trimballer dans votre mallette d'appareil photo, mais retenez simplement le principe qui est qu'il ne faut pas faire la mise au point sur l'élément le plus éloigné en paysage, comme on pense souvent comme on le fait souvent quand on débute, mais il faut faire la mise au point en gros sur le premier tiers et en fermant suffisamment votre diaphragme, typiquement F11 ou F22. Voilà. Donc deux pistes créatives. La première, c'est il peut être intéressant de changer de sujet. On va prendre l'exemple de photos qui ont été que j'ai réalisées en automne. Alors, je vais décrire, mais c'est très simple, hein, même celles et ceux qui n'ont pas les ressources de l'article et qui écoutent simplement ce podcast vont comprendre. Je montre une première photo typique d'un val. C'est un petit val très joli, entouré d'arbres aux couleurs de l'automne. Donc j'ai fait un traitement, un post-traitement très léger, hein, à peine relever un peu la vibrance et augmenter un peu le contraste, mais à peine. Voilà. J'aime quand ça reste naturel. Donc on a une photo qui est jolie, une belle composition, enfin je trouve. Mais simplement, c'est peut-être la 36 millième photo d'automne qui existe. Et personnellement, c'est j'en ai fait, je ne les compte même plus, ça remplit. Mais disque dur. Donc, il y a une manière peut-être plus originale. Bah, une méthode originale, c'est tout simplement de changer le sujet. Et d'utiliser ce fond joli qu'on a d'arbres aux couleurs de l'automne, non pas comme sujet, mais comme texture. Et j'ai fait une autre photo avec une sorte de bouquet complètement desséché qui devient le sujet et le paysage automnal derrière devient une texture, tout simplement. Donc la mise au point ici, donc je casse un peu le code de dire qu'il faut avoir une mise au point nette jusqu'à la fin, étant donné que l'arrière-plan sert de texture. Donc ici, j'ouvre plus le diaphragme. Alors, je ne sais plus à combien j'étais sur la photo, hein, mais de toute façon, c'est qu'un objectif de base. Donc, il ne peut pas ouvrir très large. Donc, je dois être à 5-6 ou un truc comme ça. Mais bref, l'idée, c'est de se servir de l'arrière-plan uniquement comme texture. Et j'ai pris le cas de photos d'automne, parce qu'en automne, on a des très belles textures en arrière-plan. Donc là, on voit un champ. On le voit quand même, le champ distinctement, donc il est flou, évidemment, vu que la mise au point n'est pas faite dessus, mais on voit ce champ et au bord, on voit ces arbres qui servent de texture pour habiller ce bouquet complètement desséché qui, lui, est en avant-plan. Une autre piste, et je vais m'arrêter là, c'est tout simplement d'inclure dans la composition des choses qu'on ne veut pas voir. Quand j'ai défini, enfin défini de manière complètement brouillonne, mais le genre photo de paysage, j'ai dit qu'en général, bah, c'était de la plage, de la montagne, de la vallée ou je sais pas quoi, mais qu'en gros le point commun c'était sans intervention humaine et en éliminant tant que faire se peut les choses construites par l'homme. Or, bah, pourquoi pas faire complètement l'inverse et inclure de manière ostensible, par exemple, des pylônes. Bah, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Donc, alors, c'est une photo que je considère comme une photo de paysage avec un champ, en fait. Alors, on voit de partir de l'avant-plan et aller progressivement vers le milieu de la photo des traces de tracteurs dans un champ de blé, tout simplement. Et au fond, on voit un pylône qui n'est pas caché par la photo, avec énormément de fils en plus qui crée vraiment un contraste. Et là, j'ai mis un traitement un peu accentué sur les nuages, pour bien faire ressortir le ciel. Traitement accentué, mais pas criard non plus. Voilà, donc, bah, cette photo, donc celles et ceux qui sont sur le blog, vous la trouverez dans les ressources. Sinon, voilà, je vous ai bien décrit, en gros, ne pas avoir peur d'utiliser quelque chose comme des pylônes électriques dans votre photo de paysage. Voilà, donc, c'est pour une première. Bon, j'aurai l'occasion, je pense, de beaucoup reparler de photos de paysage, mais voilà déjà ce qu'on pouvait dire, donc. La photo de paysage, donc faire du joli, du beau avec de la montagne et des vallons. Les focales, plutôt du grand angle, mais ne pas. Si le téléobjectif vous semble plus pertinent à un moment donné, bah, utilisez le téléobjectif. N'ayez pas peur d'avoir des critiques sur les forums, etc. Deux difficultés. Donc, tout d'abord, la difficulté du point de vue. On ne sélectionne pas forcément comme on veut son point de vue en photo de paysage, et on est limité par ça, on est limité par où sera la lumière au moment où on est sur le site. Difficulté de la mise au point, donc parfois le premier plan est flou, et bref, c'est pas très bien, et sachant que souvent on veut inclure un premier plan pour habiller un peu notre photo, et bien utilisez l'hyperfocale, mais utilisez-la simplement en retenant le résultat, pas nécessairement comment dire, pas nécessairement en utilisant les tables précises, à savoir que la mise au point ne la faites pas sur l'objet le plus lointain, mais faites-la environ au tiers de l'image, au premier tiers, et en fermant suffisamment votre diaphragme, typiquement F11 ou F16. Ne fermez pas plus, sinon vous obtiendrez de l'aberration chromatique, souvent. Voilà, donc deux pistes créatives ensuite que j'ai données. Tout d'abord, changer de sujet. Par exemple, pour une photo d'automne, certes, on peut faire une belle photo avec un bocal entouré d'arbres aux couleurs de l'automne. C'est super joli, super efficace. On va vous dire que votre photo est très bien, c'est parfait. Mais vous pouvez utiliser cet arrière-plan, enfin ce paysage d'automne, comme une texture qui viendra habiller autre chose. Dans le cas que j'ai présenté, c'est un vieux bouquet desséché qui est habillé par au fond un champ avec des arbres aux couleurs de l'automne. Et enfin, autre piste créative, bah, les pylônes, tout ça en général, on essaie de les virer des photos. Bah, quand vous ne pouvez pas, il faut les inclure, mais les inclure de manière vraiment forte. J'ai eu l'occasion de dire, c'était dans un des premiers articles, qu'il fallait que l'intention photographique soit claire. Bah, c'est pareil avec vos pylônes. Si vous essayez de le cacher, mais que vous n'y arrivez pas tout à fait, ça va être raté. On va dire, bah, t'as pas réussi à retirer le pylône. Tandis que si le pylône et tous les fils qui sortent de ce pylône sont bien nets sur la photo, bah là, l'intention photographique sera claire. La photo plaira, la photo plaira pas. Mais en tout cas, vous aurez fait ce que vous voulez. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner au blog. Donc, vous recevrez pour vous souhaiter la bienvenue, le petit livret 10 principes pour donner de la force à vos photos, qui, bah, j'espère, vous aidera à renouveler votre pratique de l'image. Bah, d'ici là, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à très bientôt. Ciao!